Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme. Le pape sera en Asie du Sud-Est et en Océanie du 2 au 13 septembre 2024. La salle de presse du Saint-Siège a confirmé vendredi 12 avril ce voyage apostolique qui le conduira dans 4 pays, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour. François qui a reçu vendredi les membres de la Fondation papale à l'occasion de leur pèlerinage annuel à Rome, une fondation qui soutient divers projets éducatifs, caritatifs et apostoliques dans le monde. Au Kenya, au terme de leur assemblée plénière, les évêques ont dans un communiqué exprimé leurs inquiétudes sur certains points touchant à la vie sociopolitique de leur pays, surtout quant à l'intention progressive du gouvernement de saper le rôle de l'Église catholique en tant que partie prenante de la société. L'actualité sociopolitique sur le continent nous conduira en Afrique du Sud, en Libye, au Niger, entre autres. Dans la deuxième partie de cette édition, nous serons au Soudan, où la guerre malheureusement se poursuit. Nous parlerons de la situation humanitaire de plus en plus inquiétante après une année de conflit. Face à une telle situation, l'Église entend rester le signe de la présence de Dieu au milieu d'un peuple meurtri et apporter son soutien aux chrétiens. Vous entendrez le témoignage d'un prêtre missionnaire dans le pays. Et nous terminerons cette édition par l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape François effectuera un voyage apostolique en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour du 2 au 13 septembre 2024. La salle de presse du Saint-Siège a confirmé vendredi 12 avril ce voyage apostolique à l'invitation des chefs d'État et des autorités ecclésiastiques respectives. Si le programme n'a pas été encore annoncé dans le détail, le nombre de jours consacrés à chaque pays est déjà connu. Le pape se rendra à Jakarta, la capitale indonésienne du 3 au 6 septembre, à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Vanimo, capitale de la province du Sandaun, toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 6 au 9 septembre. Le Saint-Père se rendra ensuite à Dili, au Timor oriental, du 9 au 11 septembre, avant de clôturer son voyage à Singapour, du 11 au 13 septembre. Toujours dans l'actualité du Saint-Père, François a reçu vendredi les membres de la Fondation papale à l'occasion de leur pèlerinage annuel à Rome, une fondation qui soutient divers projets éducatifs, caritatifs et apostoliques dans le monde. En les invitant à toujours rayonner de la joie pascale et s'engager davantage au service des nécessiteux, le Saint-Père leur a rappelé qu'un tel engagement, dans une époque marquée par l'individualisme et l'indifférence, est nécessaire pour témoigner plus efficacement de l'Évangile. Les détails avec Jacques Angol.
Dans son discours adressé aux membres de cette fondation, le pape François a fait savoir que par la résurrection de Jésus, la pierre devant le tombeau a été roulée et nous sommes invités à lever les yeux vers Jésus et à l'accueillir dans notre vie, à lui dire oui une fois de plus, rassurant que cette présence permanente du Christ ressuscité sera toujours une source de joie que personne ne pourra nous enlever. Cette fondation a été le vecteur de cette joie pascale en apportant la proximité, la compassion et la tendresse de l'amour de Jésus à tant de frères et sœurs à travers le monde, en aidant les pauvres, les réfugiés, les migrants et actuellement un nombre croissant de personnes touchées par la guerre et la violence, ainsi que l'offre de bourses destinées aux laïcs, aux personnes consacrées, aux séminaristes et aux prêtres des pays en voie de développement, un témoignage efficace pour l'Évangile. Votre travail a poursuivi le pape trouve sa source et son inspiration dans notre foi catholique qui demande à être continuellement nourrie par la participation à la vie de l'Église, les sacrements, les temps passés en silence en présence du Seigneur dans la prière et l'adoration. Dans ce sens, le Saint-Père les a invités à persévérer dans la prière afin de devenir un seul cœur et une seule âme tant avec Jésus qu'avec les autres. Le programme de la Fondation papale favorise un lien spirituel et fraternel avec les personnes de cultures, de langues et de régions différentes qui reçoivent de l'aide, assurant pour conclure que ce service est d'autant plus nécessaire à notre époque marquée par l'individualisme et l'indifférence.
Le Bureau des célébrations liturgiques pontificales a rendu public vendredi 12 avril le calendrier des célébrations du pape pour les mois d'avril et de mai. Ainsi, le dimanche 28 avril, le pape sera en visite pastorale à Venise. À l'occasion de la solennité de l'Ascension du Seigneur le 9 mai à 17h30, le pape présidera en la basilique Saint-Pierre les secondes vêpres avec la remise et la lecture de la bulle d'indiction du jubilé 2025. Le dimanche de la Pentecôte, le 19 mai, le Saint-Père présidera la messe dans la basilique Saint-Pierre à 10h. Enfin, à l'occasion de la solennité de la Très Sainte Trinité, le 26 mai prochain, journée mondiale de l'enfance, le souverain pontife présidera la messe sur la place Saint-Pierre à 10h30. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, dans leur déclaration rendue publique jeudi 11 avril, au terme de leur assemblée plénière tenue à Nairobi, les évêques du Kenya ont fait écho de l'état de leur pays et partagé quelques inquiétudes quant à l'intention progressive du gouvernement de saper le rôle de l'Église catholique en tant que partie prenante de la société. La conférence épiscopale du Kenya a principalement décrié cette subversion dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les précisions de Christian Losambe.
Le cri de l'opprimé, c'est en ces termes que les évêques kényans ont intitulé leur déclaration adressée au peuple de Dieu à l'issue de leur session plénière, déplorant certaines mesures prises par le gouvernement qui portent atteinte à la bonne marche de certaines institutions du pays, notamment les écoles et les hôpitaux gérés par l'Église catholique. Les prélats ont évoqué quelques préoccupations qui visent, selon eux, à diluer le rôle de l'Église au Kenya, alors qu'elle représente un acteur majeur de l'éducation et gère des centaines d'hôpitaux et centres de santé du pays. La conférence épiscopale du Kenya a fait mention du projet d'adoption de la loi sur l'éducation qui, selon elle, constitue une violation de l'accord initial entre l'Église et l'État sur la manière dont les établissements d'enseignement fondés par l'Église devaient être gérés. Ainsi, les évêques décrit et rejettent ce projet systématique visant à saper et à affaiblir le rôle de gestion de l'Église catholique en tant que fondateur des écoles catholiques parrainées. Les évêques ont également exhorté le gouvernement kényan à répondre rapidement aux préoccupations légitimes des médecins pour mettre fin à leur grève prolongée, les médecins kényans cherchant à obtenir une meilleure rémunération conformément aux termes des accords de négociation collective signés en 2017. En conclusion de leur déclaration, les prélats ont encouragé les citoyens kényans au regard de leur capacité à résister aux adversités, qu'il s'agisse du coût de la vie, des conditions météorologiques ou de la maladie. Ils ont en outre rappelé que le gouvernement a le devoir et la responsabilité d'atténuer ces adversités et de faciliter l'amélioration du bien-être des citoyens, ainsi que de tenir les promesses qu'il a faites au peuple.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. La commission électorale sud-africaine a annoncé vendredi avoir saisi la plus haute cour du pays pour qu'elle confirme l'éligibilité de l'ex-président Jacob Zuma, tête de liste d'un parti radical aux élections législatives du 29 mai prochain. Fin mars, la commission électorale avait invalidé la candidature de Jacob Zuma, 81 ans, en s'appuyant sur la constitution qui interdit à toute personne ayant été condamnée à plus de 12 mois de prison de se présenter. Son parti avait saisi la justice la semaine dernière pour faire annuler cette décision en arguant qu'il n'avait fait que 3 mois de prison en raison d'une remise de peine. Un tribunal électoral lui a donné raison mardi sans expliciter sa décision. Quelque 27,5 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai prochain pour renouveler leur parlement qui désignera ensuite le prochain président. Des affrontements ont opposé des groupes armés influents au cœur de la capitale libyenne, dont la nuit de jeudi à vendredi, semant la panique parmi les habitants qui célébraient le deuxième jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Les raisons des affrontements qui n'ont pas fait de victimes et ont duré environ 1 heure restaient inconnues, les autorités n'ayant pas donné d'explication. Des instructeurs russes sont arrivés mercredi à Niamey, la capitale nigérienne, qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre Niamey et Moscou. C'est ce qu'a annoncé jeudi la télévision publique nigérienne. La police éthiopienne a annoncé avoir arrêté 13 personnes soupçonnées d'être impliquées dans la nuit de mardi à mercredi dans le meurtre de Bat Oujessa, influent opposant éthiopien en Oromia. C'est ce qu'a rapporté jeudi soir le média officiel de cet état régional. Âgé de 41 ans, Bat Oujessa, dirigeant du Front de Libération Oromo, a été retrouvé mort mercredi matin, tué par balle à Meki, localité à environ 150 km au sud de la capitale Addis Abeba. La guerre civile au Soudan marque tristement son premier anniversaire. Depuis un an, Humanitaire et Espère adressent un triste tableau de la situation dans le pays. Famine, déplacement, violence sexuelle et ethnique. Dans ce contexte tragique, l'Église veut rester le signe de la présence de Dieu au Soudan et continue à soutenir les chrétiens. Dans la ville d'El Obeid, un prêtre témoigne de cette volonté d'aider la population et partager avec elle les difficultés de la guerre dans l'espoir de la résolution de la crise politique, sécuritaire et humanitaire.
Le pays est bloqué, il est dans une impasse. En tant qu'Église, notre choix c'est maintenant de rester et d'accompagner, rester avec nos chrétiens pour les aider dans ce moment de difficulté. Nous avons 3 centres, la plupart des activités sont dans les centres. Parce que la cathédrale, elle est encerclée par les militaires parce qu'ils ont peur des milices armées. Ceux qui sont partis l'année dernière, ce sont ceux qui ont pu trouver quelque chose. Donc surtout à Wao, ils ont été réemployés dans les écoles des Salésiens et d'autres avec les relations avec la famille à Djouba, dans la capitale du Sud, etc. Ceux qui sont ici à El Obeid, maintenant, oui, on essaye de se débrouiller par ce qui est l'activité principale, le commerce, des petits restos dans la rue, comme ça.
Alors que l'on compte depuis le début de la guerre, il y a un an, 6,5 millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts. Est-ce que les chrétiens tentent également de fuir le pays?
Les Soudanais, en général, ce qu'ils cherchent, c'est de fuir du pays. Ça, c'est sûr. Les Soudanais, en tant que chrétiens, en tant que musulmans, essaient de fuir, s'ils ont la possibilité de fuir en Europe ou ailleurs. Nous, en tant qu'Église, nous n'essayons pas de les faire fuir, disons, parce qu'eux-mêmes, ils ont les moyens de le faire. Ce que nous essayons de faire, c'est de qu'ils puissent rester sur place. Nous avons ouvert des écoles dans nos centres pour qu'ils puissent suivre les matières fondamentaux, l'arabe, l'anglais, les mathématiques, tout ça. Donc, notre effort, c'est que ils puissent rester sur place, et leur donner la possibilité de vivre ici. Nous avons eu des chrétiens qui sont fuis dans la route qui mène au Libye. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui essaient de rejoindre la Libye par le désert et dommage, ils meurent dans cette voie. Et il y a eu aussi des chrétiens qui sont morts. Nous avons eu des nouvelles.
Alors que certaines communautés religieuses ont également fui, que les Soudanais veulent partir, comment l'Église peut-elle offrir la possibilité aux chrétiens de rester au Soudan, de rester dans leur pays?
Pour ce qui concerne les moyens de survie, ils sont très peu, mais quand même nous avons les moyens pour pourvoir aux non-nécessités. Mais la chose la plus importante, c'est que la présence de l'Église, c'est comme un baisement. Nous sommes, c'est une présence de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés dans ce moment difficile. Donc, plus des questions matérielles, c'est une question vraiment d'esprit. Il faut, pour nous, disons, évêques, prêtres, religieux, nous sommes pour nos chrétiens cette roche, cet élément, basement qui dit « non, nous sommes là ». Et avec vous, nous marchons ensemble jusqu'à ce que le Soudan aura la paix. Donc, plus que des questions matérielles, c'est une présence, disons, simple, qui partage des difficultés, qui partage parfois la manque de nourriture, la faute, manque d'électricité et d'eau. Mais c'est justement ce partage des difficultés quotidiennes qui fait que, justement, l'Église est un élément fondamental de espoir et de sûreté pour les chrétiens.
Refermons cette édition par l'actualité internationale de la semaine. Marie-Josée Mondo Boisboileau.
Voici quelques-uns des titres qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. Les États-Unis d'Amérique, le Japon et les Philippines ont décidé d'approfondir leurs liens en matière de sécurité maritime et leur coopération économique et technologique. Le président américain Joe Biden, qui a accueilli jeudi à la Maison-Blanche le premier ministre japonais et le président des Philippines, s'est engagé à défendre Manille en cas d'attaque en mer de Chine méridionale, zone dont Pékin revendique la quasi-totalité des îles. En réaction, la Chine a fustigé vendredi les États-Unis, le Japon et les Philippines et défendu ses actions qu'elle considère de légitimes. Loïc Loury.
L'engagement des États-Unis pour la sécurité du Japon et des Philippines est inébranlable, les mots de Joe Biden à l'occasion de ce sommet avec ses deux partenaires, au lendemain de la fastueuse visite d'État du Premier ministre japonais et de déclarations déjà critiquées par Pékin. Le président américain a cette fois assuré que toute attaque contre les forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait la mise en œuvre du traité de défense mutuelle en vigueur. Depuis des années, la tension monte dans la région et les incidents se sont multipliés, notamment ces derniers mois entre Pékin et Manille. Les États-Unis affirment donc vouloir approfondir leurs liens en matière de sécurité maritime avec le Japon et les Philippines, promettant aussi à ces derniers une coopération économique et technologique plus étroite. Objectif pour Washington, renforcer son réseau d'alliances en Asie-Pacifique et préparer un éventuel conflit autour de Taïwan, point névralgique des tensions. Pékin reste bien, Joe Biden l'a dit dès son arrivée au pouvoir, l'adversaire stratégique numéro un des États-Unis. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
À Haïti, les responsables politiques ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry. Ce conseil sera chargé de restaurer l'ordre dans ce pays en proie à l'instabilité politique et à la violence. La réussite de cette sortie de crise sera conditionnée à la juste place que prendra la communauté internationale dans ce contexte. Les détails avec Frédéric Thomas, chargé d'études au CETRI.
La crainte, c'est qu'avec cette nouvelle initiative via la CARICOM, ce conseil présidentiel soit un nouveau bidule inventé par l'international pour régler les problèmes d'Haïti en contournant les organisations haïtiennes. Donc il y a aussi tout un rapport de force au sein de ce conseil présidentiel et en dehors, pour que ça soit vraiment un pouvoir de transition qui rende compte d'abord aux Haïtiens et Haïtiennes et pas à la communauté internationale.
Feu vert des eurodéputés à une vaste réforme de la politique migratoire de l'Union européenne. Ils ont adopté mercredi, au cours d'une session plénière à Bruxelles, un pacte sur la migration et l'asile, fruit d'un difficile compromis. Il durcit les contrôles des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre États membres, comme nous l'explique Pierre Benazé.
C'est une réforme véritablement profonde de l'asile et de la migration en Europe qu'amène ce nouveau pacte après 3 ans et demi de négociations acharnées et 10 ans de blocage. Premier volet notable, la disparition de la règle de Dublin. Elle faisait porter l'essentiel de l'accueil des migrants sur les pays de première entrée dans l'Union. Désormais, en cas d'afflux massif, les autres pays européens sont tenus d'apporter leur soutien, par exemple en accueillant des demandeurs d'asile. Et grande nouveauté, en cas de pression migratoire majeure, un demandeur d'asile pourra déposer un dossier dans un autre pays que celui de première entrée. Le pendant de cette solidarité européenne, c'est le durcissement notable des conditions d'entrée pour les migrants. À leur arrivée sur le sol européen, ils seront soumis à de nouvelles règles de filtrage, avec données biométriques et comparaison des empreintes digitales dans un fichier commun. Le but est le renvoi immédiat de ceux qui s'étaient déjà vus refuser l'entrée, mais cela s'accompagne aussi d'un renvoi quasi automatique dans le pays d'origine pour les migrants qui ont le moins de chances de se voir accorder l'asile, par exemple s'ils proviennent de pays considérés comme sûrs. Et les demandes d'asile devront désormais être traitées de manière rapide et surtout selon une procédure commune. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Les récentes attaques sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia peuvent marquer le début des nouveaux fronts de guerre extrêmement dangereux, s'est alarmé jeudi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le site de Zaporijia, occupé depuis mars 2022 par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a subi une série d'attaques de drones depuis dimanche, Moscou et Kiev se rejetant mutuellement la responsabilité. Au Proche-Orient, des menaces de représailles de l'Iran contre Israël ont de nouveau fait monter la tension jeudi, suscitant des appels à la retenue au moment où des progrès en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se font attendre.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.